Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Pour ce nouveau numéro, nous avons convié Guillaume Terrien à nos micros. Guillaume, dans la vie, est expert en stratégie de marque via son agence World Digital People et reporter pour divers médias français. Curieux, hyperactif et informé, Guillaume, c'est ce parisien qu'on connaît tous, celui qui rit aux terrasses des bars et qui a un avis sur tout. Et pour cause, du haut de ses 32 ans, Guillaume a quand même pas mal roulé sa bosse. Et c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Parce qu'il y a un an de cela, Guillaume a décidé de faire un tour du monde, en passant par pas moins de 14 pays. Pendant ce tour du monde, Guillaume va évidemment faire de grandes découvertes personnelles et vivre des aventures uniques, mais également développer un projet professionnel dont il va nous parler pendant l'interview. Bien sûr, et parce que c'est le fond de ce podcast, il va surtout nous parler de son déclic d'aller visiter le monde et de tout ce que ça a changé pour lui aujourd'hui. Salut Guillaume!
Salut Juliette.
Ça va?
Ouais, merci pour l'invitation.
Bah avec plaisir, on est ravis de t'avoir. Alors Guillaume, on l'a dit dans l'introduction, toi ton déclic ça a été de partir faire un voyage autour du monde. Mais
exactement.
Avant ça, on va placer un petit peu de contexte. Est-ce que toi t'as toujours été un voyageur? Est-ce que ça faisait partie de ton enfance?
Oui et non. Alors mes parents sont issus de province quoi. J'ai des grands-parents alsaciens et nantais. Donc quelque part, je ne suis pas parisien pure souche, même si je suis né à Paris.
Comme beaucoup de Parisiens finalement.
Exactement, ouais. Et puis, je vais dire que mon premier contact avec le voyage, ça a été sur la mer. Puisque quand j'étais jeune, mes parents achetaient un bateau, donc j'étais vraiment enfant. Et on partait toutes les vacances scolaires en Bretagne, dans le sud, etc. Faire des traversées en bateau. Donc toujours au contact de la mer, la pêche, une façon de voyager finalement assez sommaire. Puisque bon, dans le bateau, on n'avait pas non plus tout le confort d'un hôtel 5 étoiles. Donc voilà, c'est un peu mon premier contact avec le voyage, entre guillemets.
Et tu avais déjà une appétence pour ça? Parce que parfois, quand on est petit, on ne se rend pas compte un petit peu de la richesse que ça puisse être. Et notamment quand on est préado ou adolescent, peut-être qu'on n'a pas envie d'être avec ses parents. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu kiffais? T'aimais bien ces voyages en bateau, justement?
Ouais, alors la bonne blague, c'est que j'étais malade comme un chien en bateau. Donc ça, c'était vraiment un régal. Après, je pense que le premier truc que j'ai aimé dans le voyage, c'est pas forcément le rassemblement familial, mais plutôt le contact avec la nature.
D'accord.
Comme on était toujours sur la mer, moi j'adorais pêcher. Donc les petites îles, le golfe du Morbihan, tous ces endroits-là, ça a été une façon de me rapprocher vraiment d'un environnement naturel. Mm-hmm. Et de l'autre côté, après, j'avais côté Alsace tout ce qui était montagne. Oui. Donc finalement, très vite, j'ai été plongé dans des environnements naturels qui ne sont pas forcément ceux qu'un jeune Parisien peut avoir à la base, quoi.
C'est sûr. Et donc tu nous parles surtout de tes expériences en France, mais qu'est-ce qui a été ta toute première destination hors France? Est-ce que ça t'a marqué?
Ouais, ça m'a marqué parce que ma première destination en France, c'était les États-Unis. Ah, je suis parti 2 semaines après les attentats du 11 septembre.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Donc c'était une expérience assez dingue, puisque 2 semaines avant on regardait ce qui se passait à la télé, je me rappelle, je sortais du collège et je vois encore les journaux en boucle sur ce malheureux épisode. Et puis 2 semaines après je partais avec un ami tout seul, un ami du collège, rejoindre un autre ami dont les parents avaient déménagé à Washington.
Ah oui, donc juste à côté de New York en plus.
Voilà, exactement, pas très loin, la capitale, la Maison Blanche, etc. Donc premier voyage tout seul, sans les parents, les avions, tout ça, pour aller... ce qui faisait fantasmer un peu tout le monde à l'époque, les États-Unis.
J'étais mineur en plus.
Ouais, j'étais mineur encore. Ouais.
Le truc enfant voyageant seul avec ton petit cordon autour du cou.
Non, même pas. Non, c'était débrouillé tout seul. Je sais plus quel âge je devais avoir. Je devais avoir 13-14 piges, je pense.
Ouais,
il y avait
une limite d'âge dans ces trucs-là.
C'est possible, ouais. Du coup, je partais à Washington. Après, là, pour le coup, en termes de dépaysement, on n'était pas non plus dans quelque chose de transfiguré par rapport à la France, puisque Washington, c'est une ville qui est somme toute assez européenne dans l'architecture, etc. Donc c'est vrai que voilà, on vivait chez des Français qui avaient des habitudes de Français. Donc à part la grosse maison dans les suburbs, quoi, voilà, ça m'a pas non plus marqué en termes de découverte d'une culture, etc., quoi.
Et c'est là, donc après, toi, tu as plutôt fait ton tour du monde. Bah, on se doute que tu n'as pas fait un tour du monde en version hôtel 5 étoiles. Donc, ta vraie expérience de voyage, c'est laquelle? La première, plutôt en mode rules, backpack
Ouais, alors la première, ça arrivait quand j'étais en école, en quatrième année, en école de commerce. On était dans une école de commerce avec beaucoup d'échanges internationaux. Du coup, ils envoyaient leurs étudiants un peu partout, et donc on avait des potes qui étaient partis au Mexique et à Puebla au Mexique. Et du coup, on s'est dit bon, on a un mémoire rédigé, mais on n'a pas trop de cours. Et donc bon, les cours ont un peu sauté pendant un mois et demi, mais c'est voilà, on s'est dit on y va, on part tous les deux. Évidemment, quand tu regardes le site du ministère des Affaires étrangères, on te déconseille d'aller là-bas.
Bien sûr.
Voilà, donc on est parti là-bas et ça a été vraiment la première expérience, c'est-à-dire de backpacker que j'ai eue, où là, pendant un mois et demi, c'était complètement la route, avec le sac sur le dos, à pioncer dans des gares routières, toute la nuit en attendant des cars qui n'arrivaient pas, à partir sur des bateaux de pêche sur la côte pacifique avec des pêcheurs. Checker les raies-mantas et ce genre de choses, à rencontrer après, à dormir chez les gens dans les petits bleds perdus, à se faire contrôler par des armées indépendantes en traversant le Chiapas, pour arriver après sur les Caraïbes, nager dans les cénotes et tout le côté un peu plus touristique que peut avoir le Yucatan, vers Playa del Carmen, Tulum, etc. Mais c'était pas la partie la plus intéressante du voyage. Et en fait, c'est marrant parce qu'on devait partir au départ un mois, et après on est rentré à Puebla où logeaient nos potes. Et en fait, c'était. Alors, je vais pas prononcer le nom du volcan, mais c'était le moment de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull. Voilà, le
Le
volcan
fameux mot.
islandais, ce qui fait qu'on
Ouais.
a été bloqué 2 semaines de
Ah ouais,
plus.
t'as fait
Ouais, 2 semaines
partie de
de
ces gens-là.
plus. Exactement. Mais bon, moi, ça m'a servi, parce qu'on était bloqué 2 semaines de plus à Puebla.
Trop pratique.
Voilà, exactement. Donc, ça nous a permis de continuer à voyager un peu, puis de vivre un peu la mexicaine avec nos potes, quoi.
Mais vous étiez combien pendant le côté backpack où vous avez tout
On était deux,
vous étiez tous les
mecs.
deux,
Je
ouais.
partais avec un pote qui était. Moi, j'habitais en Allemagne à l'époque, puisque j'ai fait 2 ans de mes études en Allemagne. Il y en a qui partent au Mexique. Moi, j'ai choisi l'Allemagne, mais bon, pas de chance.
C'est pas mal, hein.
Ouais, mais bon, moins sexy quand même.
Il y en a qui vont à Melun, hein,
C'est
donc.
vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, il y a quand même des gens
Pardon
qui
pour
parlent allemand.
tous les habitants de Melun, quand même.
Quand même des gens qui parlent allemand en Allemagne, je pense que c'est le truc le plus gênant. Mais bref, voilà, on a eu cette opportunité-là, et c'est vraiment là que j'ai découvert. On va dire le voyage à la route pour caricaturer un peu les trucs, où tu t'inquiètes pas vraiment de ce que tu fais le lendemain, t'organises rien, tu marches, tu roules, tu te déplaces et puis bon, bah, advienne que pourra, quoi.
Et surtout à cet âge-là, t'es
Ouais,
encore
bah
plus
ouais, t'es ouvert à
balèque.
tout. Après, ça a donné lieu aussi à des moments un
Des galères?
peu. Ouais, des moments de galère forcément, parce qu'il y en a toujours dans un
Bien
voyage.
sûr.
Mais bon, voilà, des moments un peu particuliers quand tu rencontres, j'étais des armées indépendantes au plein milieu du Chiapas, on te fait sortir du bus à minuit. Moi, j'avais pris un énorme coup de soleil en plus à ce moment-là, donc j'étais en caleçon dans un drap. Et si tu veux, je sors du bus, brûlé au troisième degré avec mon tube de Biafine. Et là, je vois des gros militaires avec des gros guns dans la main qui fouillent les affaires, qui te mettent en randonnion, etc. Il est minuit, tu sais pas où t'es, en pleine jungle et tout, donc c'est un peu particulier. Mais bon, tous ces moments-là, après, ont fait que je me suis vraiment passionné pour le voyage, même si ça veut pas dire grand-chose d'avoir une passion pour le voyage, quoi.
Oui,
Mais.
non, mais bon, après, cela dit, c'est il y a voyage et voyage, quoi. C'est toi, c'est plus en mode route, c'est vrai que c'est. Bah, de toute façon, pour l'avoir fait aussi, c'est vrai que ces pays-là, c'est aussi des pays que tu. À part le côté Yucatan, effectivement, qui est plus touristique du côté du Mexique, mais c'est le genre de pays où tu peux faire plutôt en mode route. Moi, pour avoir fait Pérou, Bolivie, c'est clairement pas le pays dans lequel tu vas pour faire du Club Med 3
Ah
Trader,
non,
quoi.
pas vraiment. Et puis c'était pas, en plus, voilà, pour revenir sur cette idée d'enfance, c'était pas du tout. Moi, j'étais dans une
Ouais.
famille, comme on l'appelait à l'époque, classe moyenne, moyenne, moyenne
Ouais.
basse. Du coup, le délire, hôtel 5 étoiles, machin et tout, c'est quelque chose
T'as jamais
qui.
connu ça,
Ouais,
quoi.
j'ai jamais connu ça. Le Club Med, tous ces trucs-là, etc., j'ai jamais été confronté. C'était des vacances à chaque fois à débrouille, donc ça a été sur le bateau, mais aussi ailleurs. À la montagne, faire des randos, etc. Donc, moi, j'ai jamais vraiment connu ce côté 5 étoiles et ça m'a jamais vraiment attiré. Voilà. Donc.
Mais après, je reviens sur ce que tu disais, je fais un petit aparté, mais c'est chouette aussi quand tu étais petit d'avoir découvert un peu plus la France. C'est vrai que nous,
Ouais.
notre génération, on a tendance à partir très loin.
Ouais.
Mais y a pas du tout des. Enfin, moi, il y a des régions en France que je connais absolument pas. Alors que là, j'ai booké des billets pour les États-Unis et pour le Japon. Mais bah, en revanche, je suis jamais allée en Alsace. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai mis pour la première fois les pieds dans le sud-est. Enfin, tu vois, sinon.
Bah ouais, voilà, après c'est bon, là c'est des questions familiales, hein. C'est bon, je t'avoue qu'en Alsace, même mes grands-parents venaient d'un bled qui s'appelle Guebwiller, je sais pas combien il y a d'âmes là-bas, mais bon, c'est quand même très paumé. Le seul truc qui est connu, c'est les ballons, donc voilà, c'est l'espèce de montagnes qui sont juste au-dessus. Ça m'excitait pas particulièrement quand j'étais enfant, quoi. Bon, après j'étais là-bas, mes autres grands-parents sont nantais, donc là c'était vraiment à la campagne et tout. Moi j'adorais la campagne quand j'étais jeune parce que pêche, liberté, on pouvait se balader
Juste à
avec
côté de
les
Nantes, ouais.
ouais, voilà, des cousins, etc. On te laisse toute la journée, toi tu vas vadrouiller, tu te fais tu vas regarder les vaches, tu fais des conneries avec les grenouilles, tu vas pêcher, tu fais tes trucs, etc. Donc ça a été une super expérience près de la nature. Et pour le reste de la France, après, j'y suis venu un peu plus tard, au gré des rencontres, au gré des contacts. T'es invité ici, dans la maison des parents d'un ami. Puis après, bah, t'as tes parents qui ont des amis ici, donc t'y vas et tu découvres un peu les régions comme ça. Mais c'est vrai que, bah, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est une des conclusions aussi un peu de ce voyage, c'est que finalement on a un pays magnifique qui est
C'est clair.
extrêmement varié en termes
En plus, c'est
de
ce que j'allais dire.
culture, voilà, de culture, de paysage et etc.
De gastronomie
De
aussi.
gastronomie, et ça c'est important, hein.
C'est clair.
Il faut toujours bien
Surtout
manger.
toi qui as fait un tour du monde, je note cette question-là parce qu'elle n'était pas dans mes questions de base, mais c'est vrai que moi, c'est un truc dont je me suis. Enfin,
Bah ouais, on pourra en parler, ouais.
je me suis toujours dit ça. Si jamais je m'expatrie ou que je vais vivre 1 an, 2 ans plus loin, je pense que la bouffe me manquerait vachement, quoi.
Ouais, bah après t'apprends à manger un peu différemment aussi.
Ouais,
Après c'est
non,
vrai que
c'est sûr.
les charcuteries, le fromage, tous nos petits bons
Le
petits
vin.
plats de grand-mère.
Le
Le
vin.
pinard, moi ça allait
Ah ouais?
encore. J'aime
Ouais,
bien
parce que
ça,
tu
mais
n'y
je
vas
suis pas
pas.
non plus un esthète du pinard.
D'accord.
Donc ça m'a pas trop manqué. Mais donc ouais, voilà. Après, bah, peut-être qu'un jour, je pense que le prochain tour du monde, finalement, ça sera un tour de France. Choper un gros van, le
C'est clair.
réaménager et partir un an
C'est
sur la route
clair.
de France. Il y a
Mais
beaucoup
en
de choses
vrai,
à
ouais, c'est
voir.
des choses à faire parce que quand tu vois toutes les merveilles qu'on a, genre que ce soit les champs de lavande en Provence ou les gorges du Verdon, ce
Ouais.
genre de choses, enfin,
Ouais.
personnellement, j'y ai jamais foutu les pieds, c'est superbe.
Après, le problème, c'est les coûts aussi, quoi. C'est que
C'est ça.
voyager en France, ça coûte très cher.
C'est
Alors,
clair.
si c'est vraiment une organisation dédiée, c'est-à-dire on achète un endroit où dormir, donc un van ou quelque chose comme ça, et qu'on va chez les paysans les aider un peu à bosser contre un repas ou des choses comme ça peut revenir pas trop cher. Mais si tu prends juste ta bagnole, que tu vis dans des hôtels, etc., bon, un an,
Ouais, c'est clair.
t'en as pour un sacré budget, quoi.
Plutôt que de partir en Asie où c'est très peu cher
Oui,
quand t'es
voilà, en Asie, en
européen.
Amérique du Sud. Après, on n'a pas fait que des pays pas chers
Ouais.
pendant le voyage, mais bon, c'est vrai que l'Asie, tu peux passer un an et dépenser pas grand-chose,
C'est
quoi.
clair. Alors du coup, je reviens sur mes questions. En fait, l'idée de faire un tour du monde, ça a toujours été dans un coin de ta tête ou ça a germé au fur et à mesure?
Je sais pas trop. En fait, ça a toujours été dans un coin de ma tête, dans le sens où j'ai toujours été attiré par le mouvement, globalement, le mouvement, bouger, faire des choses, etc. Maintenant, j'entendais mon père, quand il était jeune, parler de faire le tour du monde en voilier. Donc je pense que l'idée, elle a germé à ce moment-là. Après, mais ça, c'était vraiment dans mon enfance, ma petite enfance presque. Après, bon, bah, il y a eu ce premier voyage au Mexique où je me suis dit, bon, j'aime ça et j'aime voyager comme ça surtout. C'est là que tu te rends compte un peu de la façon dont tu veux voyager et ce que tu apprécies dans le voyage. Et là, je me suis dit, en rentrant du Mexique, je me suis dit, déjà, je me suis posé la question parce que j'avais trouvé une auberge de jeunesse dans un bled complètement paumé sur la côte pacifique. Et on avait rencontré trois Français qui avaient monté cette auberge de jeunesse, deux frères et un pote qui étaient là depuis 15 ans. Et
Génial.
ouais, je m'étais
C'est ouf.
posé en discutant avec eux. Voilà, ils avaient un gamin qui avait, à l'époque, il devait avoir 6-7 ans, qui parlait je sais pas combien de langues, qui se baladait
C'est
sur
ouf.
la plage, qui était au contact en permanence des. Donc je m'étais posé à ce moment-là la question de me dire, ah, est-ce que ça pourrait pas être un truc qui me branche
Ouais.
d'ouvrir comme ça une auberge de jeunesse dans un truc complètement paumé, en mode un peu pionnier? Les mecs nous avaient partagé leur expérience, donc ils avaient eu forcément des galères, parce que le Mexique, bon, en termes de législation, il y a un peu de corruption, tout ça,
Ouais.
hein. Donc ils avaient eu forcément des galères, mais ils avaient l'air très heureux, et ils nous disaient, parce que forcément, la première question qu'on leur a posée, c'est, mais ça vous manque pas, la France, vos familles,
Ouais.
vos amis et tout? Et ils nous disaient, bah, si tu savais, genre, moi, je rentre à Paris, c'était des mecs de banlieue, je rentre à Paris, voilà, quoi, je me fais 2 semaines, et j'en peux déjà plus, j'ai envie de
Ouais.
rentrer, quoi, j'ai envie de rentrer chez moi,
Ouais,
et
c'est
chez
ça.
eux, c'est le
Leur vrai,
Mexique,
c'est
quoi,
ce que j'allais
ouais.
dire, leur vrai chez eux, bah, finalement, le vrai chez toi, c'est celui que tu choisis et celui dans lequel tu te
Tu
sens
te
bien,
sens
hein.
bien, ouais,
Enfin,
exactement, ouais.
y a pas de règle d'être né ici ou pas, c'est en fonction de là où tu choisis, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais, à partir de ce voyage au Mexique, je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie d'y passer plus de temps, d'aller à la rencontre des gens. Ce qui m'avait marqué principalement au Mexique, c'était ça, c'est de rencontrer des gens et de discuter avec eux, d'échanger, de bouffer avec eux. Voilà, encore une fois, il y a cette partie de gastronomie, de partager, parce que du coup, nous, on leur faisait des petites recettes françaises pendant qu'eux nous préparaient des recettes mexicaines.
Ouais.
Et je me suis dit à ce moment-là, ça pourrait vraiment me brancher. Bon, l'auberge de jeunesse, j'ai un peu abandonné sur la route, parce que j'étais jeune et puis que j'avais pas les moyens à cette époque-là. Mais en revanche, l'idée de ce tour du monde est venue à ce moment-là où je me suis dit, ok, un moment dans ma vie, je vais prendre un an et demi, enfin un long
Laps de temps.
laps de temps pour voyager et pour
Ouais.
découvrir un peu le monde, quoi.
Et du coup, donc ton déclic, il arrivait un petit peu avec cette expérience au
Ouais.
Mexique, mais ton déclic de ton tour du monde concrètement, celui que tu as fait il y a un an, comment est-ce qu'il est arrivé il y a pas longtemps ou enfin est-ce que ça a repopé dans ton esprit d'un coup?
Alors oui et non, encore une fois, j'avais toujours cette idée de voyager longtemps dans un coin de ma tête. Et si tu veux, bon bah la vie, après, je suis comme tout le monde, hein, j'ai commencé à bosser. Au bout de 5-6 ans, voilà,
Une carrière.
j'ai un poste en agence, c'était un poste intéressant, qui me passionnait. Et si tu veux, le vrai, alors si déclic il y a eu, on va dire, en plus de celui-là, c'est que le matin, souvent, j'arrivais au boulot avec comme certaines personnes pas très envie d'y aller, je pense notamment au lundi matin difficile que beaucoup connaissent. Et je suis arrivé au taf et je me posais toujours fumer ma clope en bas de l'agence. Et j'avais lu un bouquin d'Hermann Hesse, qu'un auteur que j'adore, qui disait, même si vous êtes en ville, je résume, hein, c'est pas la phrase exacte, la citation exacte, mais qui disait, même si vous êtes en ville, prenez le temps de regarder, d'être en contact avec la nature, donc de regarder les arbres, etc. Et même si vous n'avez pas d'arbres autour de vous, regardez le ciel. Et du coup, tous les matins, je me posais devant l'agence, je fumais la clope, et je regardais le ciel. Alors bon, généralement, il était assez grisâtre et j'en voyais un petit bout. Mais il y a un matin où je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là à regarder le ciel? Là, ok, la carrière, c'est bien, le pognon, c'est bien, la reconnaissance sociale, c'est bien, Paris, c'est bien, les copains, tout ça. Mais il est passé où un peu le gamin qui avait envie de
Ouais.
voyager, qui avait envie
Le
de
gamin sur son bateau,
Ouais,
quoi.
voilà, c'est ça, tu vois. Et là, c'était le vrai déclic où je me suis dit, bon, maintenant, on arrête les conneries 5 minutes, je vais me démerder, j'avais déjà mis un peu de pognon de côté, tu
Ouais.
vois, pour préparer ce truc-là. Ça sert toujours. Et je me suis dit, bon, là, c'est bon, j'arrête et tout. Quoi qu'en disent les gens, quoi que veuille ma carrière, je lâche tout et je me donne 9 mois. Et dans 9 mois, je me casse, quoi.
C'est génial. Et bah du coup, justement, ça me fait une excellente transition. Je te remercie. Donc ton déclic de partir faire le tour du monde, est-ce que, comme tu dis, tu as tout envoyé bouler, entre guillemets, c'est-à-dire que tu t'es dit, dans tous les cas, je le fais. Toi, tu es partie avec ta copine. Est-ce qu'elle a tout, elle était toute de suite partante ou elle a émis quelques réserves au départ?
Bah elle, si tu veux, ça a été un peu plus compliqué parce que ça fait 7 piges qu'on est ensemble maintenant. Dès qu'on s'est rencontrés, elle savait que moi c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. Elle n'y avait jamais vraiment pensé. Elle avait encore de la famille, elle tenait beaucoup à ses grands-parents qui étaient assez âgés. Donc si tu veux, déjà avant le décès de ses grands-parents, c'était pas envisageable de partir tous les deux. Et puis bah malheureusement, ils sont décédés il y a 3 ans maintenant, il me semble.
D'accord.
Et là, à partir de ce moment-là, ça a commencé à ouvrir un petit peu une opportunité pour elle. Elle a commencé vraiment à se dire, ok, bon bah pourquoi pas. Et puis c'est pareil, elle a commencé sa carrière, etc. Et c'est vraiment moi qui, à un moment, lui ai dit, écoute, là moi je vais quitter l'agence. Toi, elle bosse dans une organisation internationale, donc elle n'avait pas de CDI à proprement parler. Ton contrat va se terminer d'ici 6 mois. Est-ce que ce ne serait pas le moment? On n'a pas encore d'enfants, on a les moyens, chacun un peu de fric de côté. Est-ce que ce ne serait pas le moment vraiment de partir? Ça a mis du temps pour elle parce que bah, déjà, c'était quand même un peu mon projet à la base qu'elle
Oui.
partage avec moi. Et puis parce qu'il y a tout l'aspect, malgré tout, elle est un peu plus jeune, donc forcément la famille qui dit, mais attends, t'as un super boulot, tu gagnes bien ta vie, Guillaume il est bien aussi, etc. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Pourquoi vous allez tout remettre en question? Pourquoi vous mettez en danger, encore une fois, pour partir dans une aventure déjà dangereuse, parce que certaines personnes, les personnes d'un certain âge considèrent encore que c'est dangereux et on verra qu'ils n'ont pas forcément tort, hein. Voilà.
Stay tuned.
Mais donc ouais, elle a mis plus de temps à digérer l'information, moi j'ai vachement poussé derrière, jusqu'au jour où, voilà, peut-être c'était quoi? C'était peut-être même pas 3 mois avant le départ, on n'avait encore quasiment rien organisé, si ce n'est de quitter nos boulots, d'avoir une date butoir. Elle a continué à travailler jusqu'au 15 janvier alors qu'on partait le 21. Donc si tu veux, elle a mis plus de temps à accepter cette idée-là, à se livrer. Et au bout d'un moment, bon, bah, on s'est dit, bon, bah, on y va, quoi.
Et je reviens sur ce que tu as dit qui est très intéressant. Tu parles d'une mise en danger en fait en partant comme ça. Donc pour toi, ça l'est un peu moins, je suppose, mais pour elle l'a vraiment senti comme une mise en danger?
Bah, en fait, si tu veux, il y a malgré tout un environnement social, une
Bien sûr.
pression sociale. Qui émane de ta famille, qui émane même de tes amis, qui émane de ton milieu professionnel, qui émane de toi-même aussi,
Bien
puisque tu as
sûr.
été habitué à ça.
Bah, tout le monde a des doutes aussi.
C'est, voilà, exactement, tu doutes vachement. Et tu te dis, attends, mais est-ce que je ferais pas finalement 2 ans de plus, histoire d'être encore un peu mieux? Enfin,
Ouais,
c'est très facile de
tu repousses,
repousser
ouais.
un peu le truc.
Je
Et
vois.
c'est vrai que bah, toute la phase Une fois qu'on a décidé de partir, donc moi je me suis mis en freelance, j'ai bossé comme un dingue pendant 6 mois pour avoir un maximum de fric et pouvoir vraiment faire plaisir pendant le. Pas avoir de limite, pas me dire oh bah putain, non, je fais pas ça parce que j'ai pas assez d'argent.
Ouais, et puis aussi pouvoir. Enfin, ça permet aussi de rassurer.
C'est ça, ouais, aussi.
L'entourage, quoi.
Ouais, parce exactement.
Que si c'est les parents qui ont peur, etc., ça permet de dire bon bah regarde, si jamais. Il y a quelque chose qui arrive, ouais. Bah j'ai de quoi payer, bah, je sais pas, les frais d'hôpital, les frais de rapatriement.
C'est ça, ouais. Et puis entre-temps, en plus, si tu veux, t'as des impondérables qui tombent, quoi.
Bien sûr.
Entre-temps, j'ai des propositions de job assez fabuleuses. Et tu te dis, bon, bah putain, finalement, j'ai pris cette décision-là.
Ouais.
Voilà, donc la pression, finalement, la pression sociale est très, très, très forte là-dessus.
T'as douté, toi, à un moment?
Ouais, j'ai eu un passage. 3 semaines, ouais, pendant les 3 dernières semaines avant de partir, ça a été psychologiquement assez difficile. Moi, je suis quelqu'un qui essaye de tout prévoir, de tout organiser. Voilà, je fonctionne comme ça un peu dans la vie. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout, ça, je l'avais pas du tout prévu. Et 3 semaines avant de partir, j'ai eu un gros, gros coup de blues. À me poser beaucoup de questions, à me dire mais est-ce que tu prends le bon choix, est-ce que tu prends le bon choix pour deux aussi, parce que malgré tout c'était malgré tout mon projet, ma copine s'y associait, donc il y a un côté sécuritaire aussi, est-ce que tu vas être capable d'assurer, même si ça fait un peu macho, la sécurité de ta nana, parce que les beaux-parents te mettent la pression aussi en te disant tu nous ramènes en un morceau, etc., tu vois, il y a plein de choses comme ça.
Ouais, non mais après même sur, au-delà, je pense pas que ce soit le côté macho, c'est surtout que si jamais ça avait été inversé, c'est surtout le fait que tu l'embarques dedans parce qu'elle c'était pas forcément son projet,
ouais,
à la base,
exactement,
et qu'elle s'est greffée dessus.
C'est ça, ouais.
Je pense que si ça avait été l'inverse, ça aurait été un peu la même chose aussi. C'est...
Ouais, mais t'as quand même ce sentiment de te dire on fait un truc à deux, avec un pote, t'es un peu moins responsable, dans,
oui, bah,
entre guillemets, tu vois.
Ouais, et... non, mais de toute façon, il y a ce côté où les amitiés, on n'a pas vraiment d'obligation.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Tu peux avoir un couple,
voilà,
envers une famille, ce qui est dommage, parce que parfois, les amitiés durent bien plus longtemps qu'un couple, qu'une relation familiale, et parfois, est bien plus profonde qu'un lien familial, mais c'est vrai qu'on n'a pas de sentiments.
Oui,
de
voilà, c'est ça. C'est, ouais, voilà, ça, c'est tu partages à deux, mais c'est un peu chacun pour sa gueule. Après, tu trouves des compromis. J'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça. De temps en temps, même, tu te sépares. T'es avec un copain, tu te sépares. En couple, bon, voilà, c'est pas le même rapport au voyage, quoi.
C'est clair. Comment ça se prépare un tour du monde? Est-ce que, donc tu disais donc au niveau, bon, t'as mis de l'argent de côté, ça c'est
classique. Ouais.
Tu as quitté ton job. Bah d'ailleurs, ton job, comment ils l'ont pris eux? Parce que je fais une autre digression, mais comment eux ils l'ont pris quand tu... Est-ce que tu leur as dit pourquoi tu quittais?
Ouais, en fait, si tu veux, moi j'avais un petit peu un plafond de verre dans mon agence. Je gérais le département digital d'une agence de com. Et j'avais un petit peu un plafond de verre et j'avais d'autres propositions de job. Et si tu veux, je me suis dit, bah, je vais dire la vérité à ma boss. Parce que du coup, comme ça, elle me laissera partir. Même si on sera dans une rupture à l'amiable, entre guillemets, ce qui me permettra, on va pas se mentir, de toucher le chômage.
Ouais.
Même si c'était pas l'objectif, j'avais pas envie de me retrouver du jour au lendemain sans rien,
ouais,
puis démerde-toi.
Ouais, et puis t'as pas quitté ton job pour partir direct dans l'avion ensuite.
Non, ouais, voilà, c'est ça.
Ouais,
voilà, ça,
mois.
Il y avait quand même 9 mois quasiment entre le départ et le moment où j'ai quitté mon job. Donc j'ai joué carte sur table avec elle. Je lui ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai ce projet en 9 mois. On est d'accord avec ma copine pour le faire, on a mis l'argent nécessaire de côté. Moi, j'ai monté un projet professionnel en parallèle pour aussi gagner de l'argent pendant le voyage. Donc voilà, je vous propose, moi je fais la transition encore, je vous donne encore 3 mois, je m'occupe du recrutement de mon remplaçant, je m'occupe de sa formation. Enfin voilà, j'ai voulu faire les choses vraiment bien. Elle a été super réceptive à ça et d'ailleurs je l'en remercie. Et puis voilà, finalement, après, on a eu 3-4 mois de collaboration, qui ont été d'ailleurs super. Et puis, à la fin, on se serre la main, on se dit au revoir. Les collègues, eux, ils trouvaient ça forcément génial. Hein, voilà, comme tout le monde autour de toi, trouve ça,
projet,
oui, voilà, c'est un beau projet, machin, machin. Et t'as de la chance. Moi, c'est ce que beaucoup m'ont dit, ça, j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que c'est souvent, ouais, t'as de la chance de partir. Ouais, mais non, j'ai pas de la chance, en fait. C'est un choix, c'est une décision, c'est une préparation. Et voilà, quoi.
Techniquement, tout le monde peut le faire. Bon,
c'est ça.
À partir du moment où tu arrives à joindre les deux bouts, et que tu peux mettre de l'argent de côté, tu peux aussi le faire, quoi.
Ouais, bien
c'est
sûr.
Quelque chose, c'est vrai que c'est un choix, quoi. C'est une chance qu'il faut se provoquer soi-même, quoi.
Exactement, ouais, c'est ça. C'est pas question de chance, il est question de se donner les moyens de faire quelque chose. Et je crois beaucoup en faire les choses et se donner les moyens de faire les choses. Et ça en fait partie.
C'est juste que parfois, je vais parler crûment, on n'a pas les couilles. Et c'est pas grave, parce qu'il y a plein de choses. Moi, il y a plein de choses pour lesquelles j'ai pas les couilles de le faire.
Ouais, bah ouais.
Mais c'est pas grave, c'est juste que, ouais, effectivement, c'est.
Ouais, après, faut être honnête avec soi-même aussi, tu vois. C'est toujours pareil. Si tu dis aux gens, ouais, t'as de la chance de faire ça, t'as de la chance de faire ça, et que ça te donne envie, bah, y a un moment, il faut se poser la question dans sa tête et de se dire, bon, est-ce que j'en ai vraiment envie? Et si j'en ai vraiment envie, bah, je mets tous les moyens de mon côté pour le faire. Ouais, ouais, voilà, ça, quoi, comme un projet pro, comme plein de trucs, comme un projet perso.
Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer, à part quitter ton taf et tout, comment tu as organisé ce tour du monde pour des gens qui éventuellement souhaiteraient faire comme toi?
Ouais. Alors bon, je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que nous on l'a fait un peu à l'arrache, c'est-à-dire qu'on a pris le premier billet d'avion, on a commencé par le Myanmar, on a pris le premier billet d'avion 3 mois avant et puis on est parti. Donc on a en termes d'organisation, il y a un site internet qui est super qui s'appelle Le Tour du Mondiste, que voilà, tous les gens qui voyagent un peu ou qui se préparent à ce genre de truc.
On mettra le lien dans la description.
Ouais, super, super site internet. Ça te permet d'avoir un peu les prix, ça te permet de savoir si tu veux voyager à travers une agence, à travers des billets monde, ou si tu voyages tout seul, tu te débrouilles tout seul surtout. Ça te permet de voir un peu le matériel, tu as des retours d'expérience, tu as les assurances aussi que tu peux prendre pour te couvrir pendant le voyage. Donc il y a vraiment tout un tas d'informations et ça a été clairement ma base de préparation. Mmh. Ensuite, pour ce qui est des pays qu'on voulait traverser, ça se fait à deux, on s'est dit bon bah on commence par là, on va faire à peu près ça et puis on verra après. Mmh. Donc il n'y a pas eu trop de préparation, même si moi j'avais des coups de cœur, voilà, on en parlera sans doute plus tard, mais j'avais des endroits par lesquels je voulais passer. Et après c'est boulot pour mettre du fric de côté et puis, ouais. Et puis partir, quoi.
Et pour mettre en place la durée, comment vous avez choisi? Parce que certaines personnes vont partir sur une année calendaire, d'autres sur une année scolaire. Vous aviez à la base prévu 1 an et demi, c'est ça?
Non, année calendaire pour le coup. Okay. Ouais, on avait. Après, si tu veux, la durée, c'est de se dire, on prend des chiffres comme ça. On s'était dit qu'on partait pour 1 an, mais il n'y avait aucune contrainte à partir soit pour 6 mois, par exemple, si ça nous saoulait au bout de 6 mois, si on voyait que ça ne marchait pas, soit pour 2 ans, 3 ans.
Ouais,
si...
Vous n'avez pas booké plein de billets d'avion?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Nous, on s'est laissé un maximum de liberté pendant le voyage aussi pour varier un petit peu changer de trajet pour aller dans un pays si on rencontrait des gens qui nous conseillaient tel pays, tel endroit, telle chose. Donc on s'est laissé un maximum de flexibilité sur ce point-là. Et du coup, vraiment, le billet Tour du Monde, nous, on a choisi l'option, genre on se démerde tout seul de A à Z. On a pris notre premier billet pour le Myanmar, notre première nuit d'hôtel au Myanmar. Et puis après, c'était à la vista, quoi.
Et vous avez fait quoi comme pays exactement?
Alors, le parcours, c'était Myanmar, Laos, Cambodge, Vietnam, Philippines, Australie, Nouvelle-Calédonie, puis Polynésie, puis côte ouest américaine, San Francisco. Après, on est remonté au Canada, Montréal et dans le Québec. Après, on est redescendu en Amérique centrale au Panama. On a été ensuite en Colombie, on a fini en Équateur et on a fini au Galapagos.
D'accord. Donc, joli programme quand
même. Ouais, joli programme. Mais c'était pas... Normalement, on était censé continuer un peu.
Oui, on en parlera après.
Teasing.
Encore un teasing. Et en fait, Guillaume, tu nous en parlais avant. Tu as eu aussi un projet professionnel pendant ce voyage qui s'appelle World Digital People. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, nous expliquer?
Bien sûr, ouais. Bah, en fait, si tu veux, l'idée est partie de me dire... encore une fois, c'est mon côté organisé, sécurité, machin, et sans doute une des conséquences de la pression sociale. C'était de me dire, je peux pas non plus me couper à ce moment-là de ma carrière de tout mon univers professionnel et disparaître pendant un an et demi des radars. Donc la logique que j'ai eue, c'est de me dire bon bah je vais préparer, je vais me servir de ce tour du monde pour le mettre aussi en relation avec mes compétences professionnelles et éventuellement même ouvrir un peu plus. Donc moi j'étais spécialisé dans la communication digitale et je me suis dit bon bah très bien, maintenant il y a un truc qui me passionne, je bossais dessus pour pas mal de clients, c'est la transformation numérique. Et je me suis dit bah alors on sait ce que ça veut dire en France, on sait ce que ça représente en France ou pour des pays développés, mais est-ce que la transformation numérique existe vraiment aussi au fin fond du Laos ou en Nouvelle-Calédonie qui est de la France à des milliers de kilomètres? Et du coup, j'ai monté un partenariat donc avec Siècle Digital, qui a eu la bonté de m'aider dans ce projet-là, où je faisais 3-4 interviews de personnes,
d'acteurs
de la transformation numérique à travers le monde, dans chaque pays, un article de fond qui reprenait un peu tout le côté transformation numérique du pays. Donc ça, c'était un premier partenariat avec des médias. Après, moi, j'ai monté mon site internet sur lequel je fais des portraits, parce que j'aime beaucoup écrire. Donc je faisais aussi des portraits de personnalités qui m'avaient inspiré dans cet univers-là. Et dernier point, là, c'est vraiment un côté business. J'avais passé un deal avec une grosse marque d'imprimantes. dont je tairai le nom, mais j'avais passé un deal avec eux pour leur créer du contenu pendant tout le voyage. Donc c'est du contenu vidéo et photo, et l'idée c'était d'amener, ils m'avaient filé un scanner, une mini imprimante,
Ouais.
et c'était de les mettre en situation dans des
D'accord.
endroits improbables pour travailler un peu sur l'aspect digital nomade.
Mmh.
Donc tout ça c'était des sources de revenus. Et bon, même si ça ne m'a pas rapporté, on va pas se mentir, hein, c'est pas des millions, mais c'était des sources de revenus. Et en même temps, ça me permettait de conserver une certaine visibilité sur le
Ouais.
web auprès de, bah, des différentes parties prenantes avec lesquelles je
Et
travaille.
puis conserver une petite attache aussi, au cas où, comme tu disais, pour pas disparaître complètement. Parce que
Ouais, c'est ça, ouais.
c'est vrai que à 32 ans, enfin 31 ans quand tu es parti, t'es en plein dans le gros de ta carrière, dans l'accélération de ta carrière. Donc effectivement, ça peut être aussi anxiogène de partir à ce moment-là. Donc en tant qu'anxieuse, moi, c'est ce que je me serais dit aussi.
Ouais, bien sûr, il y a ce côté-là, et puis il y a le côté de, bah, malgré tout, même dans l'univers professionnel, moi j'ai aucun problème avec mon boulot, j'aime bien ça, je trouve ça intéressant, et j'avais pas non plus envie de couper le lien, même pour moi, à titre perso, de me dire, je vais passer un an, entre guillemets, à rien foutre, si ce n'est voyager, faire des choses, s'enrichir, etc., ça, tout ça, il n'y a aucun souci, et je pense que c'est complémentaire à l'aspect travail. Et cet aspect travail, donc de rencontrer des acteurs locaux à chaque fois sur une thématique, bon, la mienne c'est la transfo numérique, mais sur une thématique précise, ça m'a permis aussi, il y avait l'aspect perso et pro en même temps dans ces rencontres-là, c'était des locaux, donc eux, après, pouvaient me donner les endroits, les clés du pays, ça m'a forcé aussi à travailler sur la culture du pays, à comprendre pourquoi telle chose était arrivée, des faits historiques, donc
Super.
il y avait vraiment un
Hyper
ensemble de
enrichissant.
facteurs, quoi. Ouais, exactement,
Mais
ouais.
surtout de rencontrer les locaux, en fait, de rencontrer les locaux, parce que généralement, quand on voyage, ce à quoi on peut surtout être confronté, surtout en tant qu'Européen, c'est vrai que parfois on rencontre presque pas les locaux, ou alors pour des monnaies d'échange de type hôtel,
Ouais,
restaurant,
exactement,
etc.,
ouais.
machin. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir.
Ouais, c'était vraiment chouette. Et si tu veux, bon, bah, au début, tu te dis sur le papier, je vais faire ça, est-ce que ça a marché? Et dès le Myanmar, dès notre première étape à Yangon, ça a super bien marché. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont plus conseillé des itinéraires de voyage, des coins, justement, un peu.
Hors des sentiers battus.
Ouais, un peu hors des sentiers battus, tout ça. Donc je me suis dit, bah, let's go, ça marche. Ça a plu aussi, je pense, au lecteur de siècle digital. Ça marchait bien avec la marque. Moi, mon site, ça lui faisait du contenu un peu différent de ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc si tu veux, tout de suite, les pièces du puzzle se sont emboîtées. Et ça a super bien marché, ce qui m'a permis aussi de garder l'équilibre entre pro et perso, quoi.
Et d'ailleurs, une question, comment tu faisais pour rencontrer ces gens? C'est-à-dire, comment tu te mettais en relation avec eux? Par exemple, c'est un Laotien d'une agence de pub laotienne.
Ouais.
Comment tu faisais, en fait,
Bah
concrètement?
c'est beaucoup de boulot,
Ouais.
ouais,
C'est de la
bah,
prospection, surtout?
ouais, c'est de la prospection en fait. Avant d'arriver, généralement c'était dans les capitales ou les grosses villes que je
D'accord.
rencontrais des gens parce que c'est quand même plus simple en termes de transfo
Bien
numérique.
sûr.
Bon, voilà. Et puis bah, je recherche sur internet. Au départ, ça passait par une recherche par un mot-clé, hein, transfo
D'accord.
numérique plus nom du pays.
D'accord.
Alors évidemment, tu fais toutes tes recherches en anglais. Après, tu commences à trouver des profils. Tu te dis, ah bah ça m'intéresse vachement. J'essaie d'élargir au maximum mon spectre en ayant à la fois des interlocuteurs issus de start-up, à la fois des interlocuteurs issus de grandes entreprises, des agents territoriaux, du gouvernement. Voilà, j'essaie de toucher un peu, et puis aussi des influenceurs et des gens de mon cœur de
Ouais.
métier, on va dire. Donc j'essaie de toucher un peu tous ces gens-là. Et puis après, tu sais, t'envoies des bouteilles à la mer un peu. Tu te dis, bah voilà, tu te
Juste faire
présentes
un
ton
cocktail
projet.
LinkedIn Pro.
Ouais, voilà, c'est un. Ouais, non, bah après, tout passe par les mails,
Ouais,
etc.
c'est
Évidemment,
clair.
tu les ajoutes sur LinkedIn derrière pour insister un petit peu. Et puis, tu présentes ton projet, et soit ça accroche, soit
Ouais,
ça
c'est
accroche
ça.
pas, quoi. Après, généralement, les gens sont quand même contents qu'on
Ouais,
parle d'eux à
c'est.
l'extérieur, à l'étranger. Donc, j'ai pas eu trop de mal, j'ai eu beaucoup de réponses positives. Après, ça prend énormément de temps parce qu'il
Ouais.
faut trouver les gens, il y a quand même un premier.
Puis reconvenir d'un rendez-vous et
C'est
voir
ça,
en
exactement,
fonction. Et
ouais.
puis en plus, comme tu n'étais pas tout seul, c'est aussi voir en fonction de ta copine si elle
Exactement.
était OK pour être encore dans la capitale encore un
C'est
jour ou
ça,
ce genre
voilà,
de
ça. Puis t'as
choses.
des dates de passage. Tu
Ouais.
essayes de prendre tes rendez-vous 3 semaines, 1 mois à l'avance pour laisser de la latitude aux gens que tu vas rencontrer. Sauf que toi, 3 semaines, 1 mois à l'avance,
Ça peut
tu sais
changer,
pas
quoi.
vraiment, ouais, si tu seras dans cette ville-là à ce moment-là. Donc il y a quand même plein de petites problématiques. Et puis après, bon, après, faut se rendre sur les lieux, faut préparer ton interview en anglais, faut enregistrer. Derrière, bah, tu dérushes, t'écoutes l'interview. D'abord, tu l'as fait en anglais, tu l'as réécrit en anglais. Tu te dis, bon, ok, c'est bien. Tu l'envoies quand même de temps en temps parce que l'accent vietnamien vietnamien en anglais, si tu veux, tu peux oui. de temps en temps avoir des mauvaises compréhensions. Donc tu le renvoies au mec en disant, est-ce que c'est à peu près ce que vous m'avez raconté? Le mec te le valide, ensuite tu traduis en français, ensuite tu le mets dans le back-office du média. Donc en vrai, pour une interview, c'est quand même, c'est quasiment une demi-journée de boulot par interview, quoi.
Mais d'ailleurs, comment tu faisais pour conjuguer pro et perso, conjuguer pro et ton expérience de voyage, quoi, en fait?
Ouais, ça a été...
Pour profiter en même temps, quoi.
Ça n'a pas été évident au début. Au début, je bossais beaucoup parce que t'es en mode, tu sacrifies des journées en fait.
T'as du mal à décrocher aussi. Partir.
Exactement. T'as du mal. Les trois premières semaines, t'as l'impression que t'es en vacances. Clairement, t'as pas l'impression que t'es en voyage. T'as l'impression que t'es en vacances. Donc t'as un peu. Donc l'avantage, c'est que t'es encore dans ton rythme de boulot. Donc si tu veux, ça te coûte pas grand chose. T'es dans la machine. Donc t'y vas. Tu lances tes trucs pro. T'écris tes articles. Tu fais tes trucs, tes machins. Au bout d'un moment, passé un mois et demi, il faut s'accrocher parce qu'il y a un moment où finalement, tu fais des trucs passionnants, tu fais des trucs toute la journée en dehors de ta vie pro et tu pourrais en faire encore plus et encore plus. Il faut savoir réserver du temps pour le côté pro et surtout, en tant que digital nomade, puisque là, on est vraiment dans ce cadre-là, tu finis par t'adapter, tu finis par trouver de nouvelles méthodes de travail, tu finis par trouver des créneaux qui te conviennent, tu finis par t'enlever de la pression aussi, de te dire « Ouais, non, j'ai un peu de temps. » Voilà, moi, je m'étais dit « Je veux pas de pression, deadline, etc. Ouais. Je veux être libre de mon emploi du temps et si jamais je bosse pas pendant 2 semaines parce que je suis perdu sur une île, je sais pas où, que j'ai pas Internet, je le fais pas. » Donc, tu trouves ton mode de travail, tu commences à trouver un équilibre dans ton voyage, ce qui se fait au bout d'un mois, un mois et demi, là, j'ai vraiment trouvé mes marques. Et après, tu prends vraiment du plaisir à lier les deux parce que ça te fait une petite pause aussi, ça te permet de revenir un peu en France, entre guillemets, puisque tu gardes des contacts avec la France à ce niveau-là. Et puis ça te permet aussi de ne pas partir complètement en vrille et d'être complètement dans ton voyage et de voir plus qu'à travers ça, etc. Quoi.
Oui, mais donc on va repartir sur un peu le voyage. Quels sont les pays qui t'ont marqué? Et pourquoi?
C'est très sincèrement.
Je suppose qu'ils t'ont tous un petit peu
marqué. Ouais, c'est un peu bateau comme réponse, ils m'ont tous marqué. Après, chaque pays a ses particularités. Plus ce qui m'a marqué, en fait, c'est des moments. Ouais. Maintenant, là, ça fait maintenant 6 mois quasiment que je suis revenu. Et quand je regarde un peu en arrière, j'ai comme des flashs, un peu comme des moments clés. Et tu te dis, dans ce pays, c'est ça qui ressort. Dans ce pays, c'est une personne, c'est un moment, etc. Donc, après, les pays qui m'ont le plus marqué. Encore une fois, tu vois, par exemple, on a fait le Vietnam à moto, sachant qu'on n'avait jamais conduit une moto ni l'un ni l'autre. On est parti de Chi Minh jusqu'à Hanoï, donc il y a quand même 2500 bornes. Ça a été une expérience dingo. À la fin du premier soir, on s'est dit, on avait fait 150 km avec je sais pas combien d'embrouilles, la moto qui pète au milieu de nulle part, ma nana avec un accident renversé par une voiture, enfin des anecdotes assez glauques. Et à la fin de la journée, on s'est retrouvé sur une plage sur la côte vietnamienne et on s'est dit, il y a eu un grand blanc pendant 20 minutes, on regardait la mer et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse nos motos? Est-ce qu'on retourne au Chi Minh, on les vend et on fait le truc en car ou un truc comme ça?
Les motos, d'accord.
Ouais, on les avait achetées là-bas, on a chacun notre moto, le backpack derrière, enfin tout le bordel. Et si tu veux, on a pris conscience à ce moment-là déjà qu'on avait été un peu ouf. Moi, je conseille de faire ça à personne, pour ceux qui veulent le faire. Faites très attention et je ne serai pas responsable si vous arrive quelque chose.
Ou alors soyez motard avant, quoi.
Ouais, voilà, même motard. Hein, on a rencontré des gens qui étaient motards sur la route, qui faisaient un peu la même chose que nous et ils nous disaient c'est des malades, quoi. Donc, c'est pas la même culture, etc. Et en fait, si tu veux, lors de ces discussions, on s'est dit, maintenant, on sait qu'on avait quand même 4-5 heures de moto par jour. Mm-hmm. On s'est dit, on sait qu'à chaque instant sur la moto, on peut y passer, notre tour du monde se termine.
Ouais.
Tu t'habitues en fait à te dire je sais pas ce qui se passera demain et à l'accepter, ce qui a été pour moi difficile au début.
T'as une capacité d'abnégation qui rentre.
Ouais, c'est ça.
Mais ça, de toute façon, c'est comme en voyage, je fais une aparté aussi. Moi là-dessus, je suis assez une princesse quand je suis à Paris, etc. J'ai mon petit confort, mon machin, mes crèmes, tout ce que tu veux. En revanche, je me suis retrouvée sans problème à me doucher dans la gare routière de La Paz, à côté des rats et des cafards, sortir en serviette limite dans la gare routière de La Paz, mais en fait. T'es pas du tout dans la même ambiance.
Ouais, non.
Et une personne que. Et pour les gens qui nous écoutent, qui auraient éventuellement envie de faire un tour du monde ou de partir dans des pays un peu plus roots en voyage, en fait, faut pas avoir peur de la personne de laquelle on est en France ou chez soi, parce qu'en fait, tu te découvres une force mentale et une abnégation en fait, face
une
à
une. Une adaptation, une faculté d'adaptation qui est formidable et qui t'aide après dans ta vie, je suppose.
Complètement.
Ouais.
Je suis tout à fait d'accord.
Donc dans les pays que j'ai, pour rebondir, excuse-moi, mais pour rebondir sur ta question, c'est cette expérience de là, on est finalement arrivé, vous en douterez, à Hanoï vivant, parce que je te promets qu'on a célébré ça, quand on a laissé nos motos à Hanoï et qu'on s'est dit on a terminé, Il y a eu un ouf de soulagement, ouais. On s'est checké, on était là genre putain on est vivant, on va boire un bon verre quoi, on va fêter ça. Ouais voilà, c'est ça quoi. Mais par contre, ça a été une expérience formidable. Après, tu vois, on a, chaque pays a eu ses particularités. L'Australie en van, bon, c'est un peu convenu entre guillemets, il y a beaucoup qui le font. Mais moment incroyable parce que on s'est perdu complètement, on a complètement lâché les villes, on s'est perdu la nature. Je me suis fait attaquer par un putain de casoar qui a failli me triper, enfin des expériences de dingue, un casoar.
C'est quoi?
Casoar, c'est un oiseau qui doit faire 1m70.
Ah, mais je vois, c'est les espèces d'autres.
C'est, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, sauf okay. que c'est un oiseau ultra agressif, je crois que c'est l'oiseau le plus dangereux du monde. Et il y a un Américain qui s'est fait buter la semaine d'avant que je me sois fait attaquer. Non, bien, et quand j'en parlais aux Australiens, ils me disaient, mais si t'avais filmé ça, tu passerais au JT. Tu
aurais tué par une poule géante.
Ouais, non, c'est ça quoi. Alors quand tu le vois sortir, c'était vraiment Jurassic Park quoi. Il était dans les hautes herbes. Le truc arrive vers toi, tu te dis, attends, vieux poulet, tu vas t'approcher, je vais te mettre une tartine, et puis ça va être réglé quoi. Sauf que quand tu vois qu'il commence à te chasser, il continue à avancer vers toi, que toi t'es là genre, ah oui, il est quand même grand, il a quand même des griffes de 12 cm. Bon, et que tu bats en retraite vers le van et que pendant 20 minutes t'es enfermé dans ton van et qu'il te tourne autour en attendant sa bouffe, tu te dis bon. Ouais, c'est ça quoi, c'est clairement lui qui me chassait et pas le contraire quoi. Donc bon, voilà, donc c'est des expériences. Après, la Nouvelle-Calédonie.
En réalité, méfiez-vous des piafs.
Ouais, les piafs, attention. Il n'y a pas que les chieurs de pigeons sur la tronche à Paris. Il y a aussi les casoars en Australie. Et puis après, tu as des expériences. Voilà, la Nouvelle-Calédonie, nous, ça a été notre coup de cœur.
Ouais.
On a eu la chance de faire la Polynésie, une partie en Kata, une partie dans une famille polynésienne.
Génial.
Dingo aussi. Après, bon, l'Amérique du Nord, un peu plus mitigée parce que ça casse un peu le côté nature et tout.
Oui, parce qu'en plus, vous passiez du tout. Rien à tout.
Ouais, c'est ça.
Quoi,
on a fait.
Ouais,
ça. Tu passes de Polynésie. J'en ai fini à Bora Bora. On a pris l'avion de Bora Bora pour aller à San Francisco. Ça fait un peu mal au cul.
Il
y a un petit choc. Donc voilà. Et puis au bout d'un mois, parce qu'on a été rejoindre des potes à Montréal et on s'est baladé un peu dans le Québec. Au bout d'un mois, on avait vraiment le manque de la nature. On s'est dit putain, vivement le Panama, qu'on puisse repartir dans notre délire d'avant. Et ça nous manquait vraiment, quoi. Donc après, il y a eu la Colombie.
Justement, on y vient. Malheureusement, tu m'offres encore une fois une excellente transition.
Ouais, voilà, c'est ça, t'as vu, je suis bien.
Malheureusement, votre voyage, il a été avorté en Colombie au bout de 8 mois. 8 mois, c'est ça ?
Ouais, 8 mois, ouais.
Et pourquoi ? Tu nous racontes cette...
Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, mes beaux-parents avaient peut-être un peu raison sur ce côté-là. Voyager, ça comporte aussi des risques. Et même si on essaye de se couvrir un maximum, que ce soit par des assurances ou par pas prendre trop de risques dans les activités, dans les lieux où on va, etc., ça peut nous tomber sur la tronche. Et là, en l'occurrence, on venait, donc ça faisait 3 semaines qu'on était en Colombie. On avait deux potes qui nous avaient rejoints. Voilà, c'est ça, quoi. Certains Camille Gropion. qui nous avaient rejoints pendant 2 semaines. Déjà, on sortait pas le soir. On sentait qu'il y a une ambiance un peu particulière. Les Colombiens étaient vraiment adorables. Ils avaient vraiment envie que leur pays s'ouvre aux autres cultures, etc. C'était vraiment des bons moments. Mais voilà, il y a des codes à respecter. En fait, un soir, on arrivait à Cali, donc on avait pris un bus de nuit. On arrive dans une petite auberge de jeunesse tenue par deux jeunes Colombiens qui nous disent super et tout. Ce soir, vous tombez bien. Il y a un super concert de jazz salsa, parce que Cali, capitale mondiale de la salsa.
D'accord. Voilà.
Et du coup, est-ce que ça vous intéresse? Moi, je vous prends des places. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment top. Il y a 20 musiciens sur scène et tout. Donc nous on était un peu crevés, le concert commençait quand même à 23h,
oui.
Donc on se dit écoute, en même temps c'est l'occasion, comme tout le monde aime bien la musique et particulièrement le jazz, pourquoi pas danser un peu de salsa aussi. Et en fait le concert donc commence à 23h, donc on se pointe là-bas, concert super, que des Colombiens, super ambiance, des musiciens top et tout ça, et on sort du concert, il est 1h30, on était à quoi, allez, 5 minutes à pied de notre guest house, notre auberge de jeunesse. Et on se dit, on va pas prendre un tacos pour 5 minutes. On avait passé notre journée dans le quartier où on habitait et il y avait aucun. Enfin, c'était ultra safe. C'était entre guillemets le quartier un peu touristique de la ville de Cali. Et en fait, on prend la première rue et là, il y a une voiture vite teintée noire qui nous dépasse. Au ralenti tout ça, donc moi je dis à ma copine viens on accélère, on tourne à gauche là et on accélère vraiment le pas. Elle pas trop tilté, et en fait 2 minutes après moi je vois la voiture qui nous redépasse à nouveau. Là je me retourne vers elle, je lui dis cours, je commence à courir. Je vois, en fait, je vois un mec qui sort avec un couteau de la, qui sort un couteau de la bagnole, qui se jette sur elle. En fait, elle a pas eu le réflexe de courir, ce qui est normal. Et puis, elle était en tongs, je crois, un truc comme ça.
Ouais, et puis parfois, tu sais pas comment tu réagis face au
danger. Voilà,
certaines personnes vont crier, d'autres vont être tétanisées, ouais. D'autres vont fuir.
Ben, c'est ça, ouais. Et c'est ce que tu apprends aussi dans le voyage. Mais...
Ouais.
Et du coup, donc, le mec s'agrippe à son un tote bag, ça commence à s'agripper à son tote bag en faisant des grands gestes. Elle, elle a pas le réflexe de le lâcher parce que, voilà, on était en plein feu de l'action. Donc, moi, je reviens vers le truc. Et en fait, je rate une première marche, mon genou se retourne à l'envers. Une première fois, donc avec l'adrénaline, ouais, je le sens pas, je le remets en place, je me relève, je cours vers le gars. Là, bah, du coup, il lâche ma copine et en fait, il essaye de me planter moi. Le coup de
Super.
couteau, ouais, le coup de couteau est vraiment pas passé loin, donc je fais un mouvement de recul, je reprends appui sur ma jambe qui s'était blessée. Là, elle se replie à l'envers une deuxième fois, ce qui permet à ma copine quand même, entre-temps, elle a le temps
Lâcher
de
le
jeter,
sac.
ouais, de lâcher le stack, enfin, de jeter toutes les affaires qui sont dans le sac par terre. Donc elles sont éparpillées. Là, il y a les voisins qui commencent un peu à sortir, même si c'est 1 h du mat, la rue commence un peu à sortir sur les balcons et tout. Donc le mec, en fait, il a pris ce qu'il a pu par terre, il est remonté dans sa bagnole. Et en fait, à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a un autre mec à côté de la portière qui nous braquait avec un flingue.
Génial.
Voilà, donc bonne
Bonne
ambiance.
ambiance.
Donc si tu veux, dans l'histoire, on n'a pas, enfin, on a perdu du matériel parce qu'on avait forcément, on avait une petite
Caméra.
caméra DJI là pour filmer. On avait un appareil photo, on avait bah, le portefeuille de ma copine, même s'il n'y avait pas grand-chose. Du coup, ça on a perdu. On a réussi à garder les passeports parce qu'on
C'est ce que
les.
j'allais te demander.
Ouais, bah, en fait, si on n'avait pas eu le temps de repasser à l'auberge, donc on avait les passeports sur nous, ce qu'il faut absolument pas faire, hein, que je
Ouais.
déconseille et qu'on avait d'ailleurs jamais fait.
Photocopier vos passeports.
Ouais,
Quand vous voyagez dans
exactement.
ces conditions-là, toujours avoir une photocopie du passeport au cas où.
Ouais, et du coup, si tu veux, ça, enfin, malgré tout, bon, moi j'ai perdu mon genou dans cette histoire, ça a permis de garder les passeports, mais j'ai perdu mon genou, donc les keufs sont arrivés, puis après je t'épargne la suite, quoi. Le lendemain, le genou est quadruplé de volume, donc après, bah, il faut se lever, il faut essayer d'aller faire l'examen en Colombie, donc la galère. Après, ça fait partie du voyage aussi. Donc on s'est tapé 2 semaines sur place à Cali, à essayer de faire des examens. Les mecs voulaient pas
Oui, et
me faire
puis
d'IRM, enfin
je
c'était.
suppose qu'en plus là-bas, enfin, ils parlent pas forcément anglais, et toi tu
Non.
parles pas couramment espagnol.
Ouais, moi je
Donc
parle pas couramment
quand il s'agit
espagnol,
du médical, c'est compliqué, quoi.
mais. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, encore une fois, il y a des coutumes. Alors, il y a beaucoup de. C'est là qu'on se rend compte qu'on a la chance d'avoir la sécu, hein. Il
Ouais.
y a beaucoup de. Tous les soins là-bas, c'est du privé. Donc, ça coûte pour nous pas très cher, mais pour eux extrêmement cher. Et même pour nous,
Ouais.
ça représente quand même une certaine somme. Donc, après, c'est la galère, quoi. T'arrives chez le médecin. Le premier, il te fait une radio. Il te dit, t'as une fracture, mais tes ligaments croisés sont pétés aussi. Tu vas dans une deuxième clinique, là le mec te dit non, mais c'est tes ménisques qui sont
Tu payes à
cassés.
chaque fois en
Ouais,
plus.
voilà, donc tu payes à chaque fois et tout. Au final, moi j'ai jamais réussi à savoir ce que j'avais en Colombie. Donc on a déjà pris nos billets pour l'Équateur. Donc moi j'étais en béquille. Une fois que au bout d'une semaine, la douleur s'est un peu effacée, mais j'avais la jambe bloquée en fait. J'avais la jambe bloquée
À moitié
ouais, à
plié.
moitié pliée quoi. Et du coup, bon bah j'ai continué mon voyage qu'on a déjà réservé les billets pour les Galapagos et le logement. Du coup, on a continué le voyage encore pendant 3 semaines. Donc à béquille, je me suis fait les Galapagos à béquille. Je regrette absolument pas. C'était un moment magnifique, etc. Mais voilà, le voyage s'est arrêté un peu à cause de ça parce qu'après il fallait rentrer, quoi. Il fallait que je me fasse opérer. Je pouvais rien faire.
Et
Et
en soi,
voilà.
l'agression vous a pas trop traumatisé? Vous n'aviez pas eu envie de rentrer tout de suite après ça? Parce que parfois, tu peux avoir une envie viscérale, limite une crise
Ouais,
de nerfs, ce
ouais.
qui aurait pu être complètement recevable et compréhensible, parce que c'est quand même violent ce qui vous est arrivé.
Ouais, c'est violent si tu veux, mais en fait, on était conditionné à ce que ça puisse arriver. C'est-à-dire que,
D'accord.
voilà, comme la moto,
Vous étiez un peu préparé, quoi.
ouais, comme la moto au Vietnam, si tu veux, il y a un moment où tu prends conscience que tu prends un risque, il est calculé, et que ça peut arriver. Voilà, donc, bon, voilà, je le souhaite à personne. Nous, ça nous est arrivé, et ça nous a coûté quand même les 4-5 derniers mois, enfin,
Et un
la fin
genou?
du voyage, et un genou, et je peux vous dire que j'en ai chié pour récupérer mon genou. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas encore tout à fait récupéré. Mais non, psychologiquement, on était conditionné à ce genre de truc. On savait que ça pouvait arriver. Ça faisait 8 mois qu'on voyageait, donc on était quand même aussi vachement
Ouais.
habitué à
C'est pas comme si c'est
repérer.
arrivé au bout de 2 semaines.
Ouais, voilà,
Ouais.
ça. Voilà, ça aurait été vraiment horrible. Et tu vois, les conséquences négatives que ça a eues, c'est quand on est rentré, bah, du coup, les gens se sont beaucoup moins intéressés autour du monde et m'ont
Ouais.
posé la question de oh, qu'est-ce qui s'est passé en Colombie? Qu'est-ce qui s'est passé en Colombie? Ça a porté préjudice aussi à la Colombie, que je recommande à tout le monde, qui est un magnifique pays. Les gens sont adorables. Après, il faut faire attention, mais comme partout.
Mais ce genre bon, ça arrive plus souvent dans ce genre de pays aussi où il y a une
Ouais.
plus grande pauvreté et beaucoup plus d'inégalités sociales, etc. Mais ça peut aussi arriver en France. Il y a des gens
Clairement, ouais,
qui se font agresser en
exactement.
France aussi. Malheureusement, on est à
Exactement.
l'abri de rien, hein.
C'est ça. Après, le seul, voilà, le seul, Le seul truc un peu flippant, c'est que là, tu te rends compte que la vie n'a pas la même valeur, t'as un flingue qui est pointé sur toi. Et si jamais, tu vois, moi j'étais arrivé pour frapper le mec qui avait le couteau, si jamais je lui avais calé une droite, j'aurais peut-être pris une balle derrière. Donc si tu veux, on s'est dit qu'on avait eu de la chance
Il y
aussi,
a
que
votre
c'était
malheur.
juste un genou, que bon, il y avait du matériel, c'était juste un genou. Mais tu vois, le coup de couteau est passé vraiment à 2 cm de mon
Ça aurait pu
bide.
être beaucoup plus tragique.
Ouais, voilà, ça, il y a l'autre qui a un flingue derrière. Bon, bah, il est 1 heure du mat, tu prends un coup de couteau dans le pancréas, dans
Ça
le
va très vite.
foie, au fond de Colombie, c'est bon, au revoir, merci, hein. Donc, si tu veux, on est ressorti forcément. Vraiment, moi, j'étais frustré, j'étais déçu, j'en ai chialé de rage toute la nuit. Après, encore une fois, j'en veux pas au mec, et c'était pas de la douleur, des larmes de douleur ou quoi que ce soit, c'était des larmes de frustration, parce que je savais que mon voyage était fini.
Parce que ouais, ça a avorté
Voilà, c'est
que
ça.
neuf.
Tu et puis ça fait 8 mois que t'es plongé dans un univers. On avait déjà prévu des trucs sur la suite du voyage et on avait envie de continuer. On mangeait le
Oui, puis
truc à pleines dents, quoi.
vous venez presque d'arriver sur un nouveau continent.
Exactement, ouais, c'est ça. Donc on avait tout. Voilà, on devait redescendre après par
Enfin
la côte
d'ailleurs,
ouest.
Pérou, Colombie,
Ouais, c'est ça.
Bolivie, ouais.
On devrait faire Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, puis remonter après, finir notre tour du monde au Brésil. Donc voilà, ça fait mal au cœur de tout quitter, mais on était préparé psychologiquement à ce que ça puisse se passer comme ça.
Et qu'est-ce que tu retiens de tout ce voyage, même si ça s'est fini plus tôt que prévu?
Bah, on parlait tout à l'heure de faculté d'adaptation, je pense que c'est le mot-clé. En fait, tu te rends compte que l'humain s'adapte à toutes les situations.
Mais la
Je
preuve,
pourrais
parce
le
que tu vois,
décrire.
je reviens sur ton agression, mais effectivement, peut-être que toi et ta copine auriez peut-être été plus traumatisés si c'était arrivé à Paris, parce qu'on n'est pas dans cette
C'est
condition-là.
possible, ouais. C'est possible, ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible, je sais pas. Après, à Paris, en fait, si tu veux, c'est toujours pareil. À Paris, tu connais les codes, entre guillemets. Donc, t'apprends à gérer ce genre de menaces complètement différemment et généralement pas à ne pas t'y exposer, tout simplement. Là-bas, t'es toujours dans l'inconnu. C'est toujours quand t'arrives dans un pays, tu mets toujours 4-5 jours avant
C'est
de
clair.
comprendre un peu les codes, de sentir l'ambiance, de sentir les moments de danger, etc. Et puis encore une fois, tu as des pays qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Voilà. Quand on était
Non,
en
c'est un
Asie,
fait, c'est un fait.
Pour le voyage, c'est parfait. Tu laisses ton téléphone sur la table, tu l'oublies, tu reviens une demi-heure après, ils te l'ont mis de
C'est
côté, ils te le
génial.
rendent, quoi. Donc voilà, pas de vol ou très peu, bon, pas d'agression physique, voilà, t'as
C'est pas les
des...
mêmes cultures et c'est pas les
Ouais.
mêmes violences, c'est
C'est
pas
pas
les
la
mêmes
même violence, ouais,
inégalités, c'est.
exactement, ouais.
Et donc, excuse-moi, donc qu'est-ce que tu retiens de tout ce voyage, à part donc cette capacité d'adaptation et quoi d'autre?
Bah, ce que je retiens de tout ce voyage, c'est que. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'au début, quand tu pars en tour du monde, tu sais que tu veux voyager, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Très vite, on s'est rendu compte. Après, Angkor, en fait, on a fait les temples d'Angkor au Cambodge qui nous ont dégoûté vraiment du tourisme en règle générale. Donc, ça, c'était la première conclusion. C'est OK, maintenant, je sais pourquoi je suis en voyage. C'est pour rencontrer des gens et être proche de la nature, voilà, découvrir des endroits naturels. Donc ça c'était une première chose et après à la fin du voyage en fait moi je me suis rendu compte, j'ai mis un peu de temps mais je me suis rendu compte que c'était une transition en fait, c'était une étape transitoire dans ma vie, une étape transitoire qui m'amène aujourd'hui à bah je sais pas si on peut
Mais
en
c'est
parler maintenant
bien sûr, ça
mais
c'est
voilà,
ma prochaine question.
ouais voilà, donc je te fais que les transitions,
C'est
c'est bien,
parfait.
c'est beau et du coup qui m'amène à me dire bah j'ai découvert enfin on a découvert un paradis qui est la Nouvelle-Calédonie avec un mode de vie qui nous convient, un mode de vie très naturel, très préservation de l'environnement, près de la mer, avec on est tombé amoureux de la plongée, donc on en a fait aussi un peu partout dans le monde et du coup on part s'installer là-bas fin juillet.
À Nouméa, ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, comme grâce aussi à mon projet professionnel, j'ai rencontré des personnes sur place. J'ai eu des propositions de job dans quelques pays où on est passé, dont une là-bas que je vais saisir.
Donc
Et
toutes les
du coup,
planètes sont alignées, quoi.
exactement. Et du coup, voilà, transition vers une autre vie, vers se dire qu'en fait, l'important, voilà, moi, la conclusion que j'en tire, c'est que l'important dans la vie, c'est pas forcément d'avoir plein de pognon sur son compte ou d'avoir un très beau poste dans une belle boîte, c'est surtout la qualité de vie, c'est surtout faire ce que tu as envie de faire pendant et après le boulot surtout. Donc voilà, j'ai envie que, bah voilà, si jamais je dois fonder une famille, j'ai envie que mes enfants grandissent les pieds dans l'eau là-bas. J'ai envie de me recentrer sur des choses un peu plus essentielles, le sport, de profiter des copains dans voilà, parce qu'on va à Nouméa, donc ça reste une ville de 200 000 personnes, c'est pas non plus le petit bled d'à côté. Donc, moi, j'ai trouvé là-bas les avantages de notre vie entre guillemets citadine et en même temps les avantages de la nature. On a des amis aussi qui nous ont accueillis là-bas, donc on a pu vivre un peu en tant qu'expatriés, ou alors même, je vais dire le terme, immigrés, parce que bon, c'est un bien joli mot, expatrié, mais en vrai, on est immigrés là-bas. Et du coup, voilà, c'était une phase de ce voyage-là. Finalement, les conclusions, c'est que c'est une transition vers une nouvelle vie, vers une nouvelle étape de la vie.
Et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui voudraient faire éventuellement un tour du monde comme vous l'avez fait?
Je leur conseillerais de pas trop intellectualiser le truc. La première chose, c'est de préparer intelligemment le voyage, de ne pas partir complètement en live en se disant vas-y, on y va, on verra, on a 30 euros sur notre compte et yalla. Mais de préparer leur truc sérieusement, de se dire est-ce que j'ai envie que ça aide aussi ma carrière professionnelle? C'est une première question à se poser. Après, la réponse, c'est pas forcément oui. Moi, ça a été oui, mais c'est pas forcément le cas. Donc, de préparer le truc tranquille, mais surtout de pas s'imposer de choses, de se dire. Je prends mon premier billet. Alors, un autre enseignement aussi, des billets tour du monde ou ces choses-là, ça ne, enfin, c'est pas, si vous êtes un peu organisé, c'est pas la bonne idée. Ça vous coûtera 10 fois moins cher de prendre des billets voilà, simples quand vous vous baladez, etc. En plus, vous êtes complètement libre sur les périodes, donc permet de prendre les billets moins chers. Et puis, de pas du tout intellectualiser le truc, de pas se poser de questions sur pourquoi, machin, etc. Juste de rentrer dans son voyage, de vivre le truc à fond. Et forcément, les enseignements viendront pendant, après le voyage. Et tu vois, même si malgré ce qui s'est passé en Colombie, aujourd'hui tu me dis, est-ce que tu repartirais, sachant que bah là, ça fait quand même 6 mois que je fais de la rééducation, je marche pas encore tout à fait parfaitement, bah, je signe demain quand même. Je signe demain, il n'y a aucun souci si je dois me faire réagresser au fin fond de la Colombie, après les 8 mois de voyage que j'ai passé. Mais
Ouais, tu le
voilà, on
refais, ouais.
signe où quoi, ouais, c'est ça quoi.
C'est génial. Et une dernière question, si le Guillaume d'avant ton déclic et donc d'avant ton voyage, il te voyait maintenant, qu'est-ce qu'il se dirait à ce Guillaume de 2020 qui a fait son tour du monde pendant 8 mois?
Bah,
Si
je
le petit
pense.
Guillaume, par exemple,
Ouais,
se voyait?
si petit Guillaume, vous voyez le Guillaume qui est sur le voilier à BGR ses tripes pendant chaque traversée, je pense qu'il serait fier et il se dirait, bah écoute, t'as tenu ta parole et finalement t'as continué à faire et ça t'a ouvert une nouvelle étape de ta vie, une nouvelle aventure. Et je considère que la vie, c'est un peu, voilà, j'ai pas fait à tomber dans le mélodrame romantico bobo, mais voilà, ça ouvre une nouvelle étape. Et quand on n'a pas l'occasion de se mettre en danger, comme on le disait tout à l'heure, et de vivre des choses un peu différentes, et bah, on ne se rend pas compte qu'en fait la vie, ça passe vite, qu'il y a d'autres étapes, qu'on n'a pas qu'une vie entre guillemets, et qu'elle n'est pas toute droite. Donc je pense que le petit Guillaume, à mon avis, je le checkerais et il me ferait bien ouais.
Et ben on va finir là-dessus. Merci Guillaume.
Merci, vieux.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté le déclic de Guillaume. S'il vous a plu, n'hésitez pas à faire découvrir l'émission autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitter, LinkedIn et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.